On vous parle d'une vaste opération de gendarmerie sur la délinquance environnementale. On revient aussi sur l'interview du président de l'Assemblée, Tony Giros, hier sur notre antenne, avant de parler magie. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Yorana Damien, bonjour à toutes et à tous.
La gendarmerie fait place nette dans l'environnement.
Oui, dans le cadre du plan zéro délinquance lancé par Paris dans toutes les collectivités concernées par les Jeux Olympiques, les gendarmes ont ciblé les délinquants environnementaux la semaine dernière. 60 à 90 militaires déployés pendant plus d'une semaine, des moyens nautiques, terrestres et aériens, des spécialistes de la cybersurveillance, des équipes cynophiles, le nouveau réseau d'enquêteurs environnementaux entièrement mobilisés. La Polynésie est le seul territoire à ce jour où la gendarmerie a concentré son action sur cette thématique environnementale. Les gendarmes ont ainsi enquêté sur une série de dépôts illégaux de déchets, de sites d'abandon d'épaves de voitures, sur d'anciennes fermes perlières non dépolluées et même sur un cas d'incinération et d'enfouissement illégal de déchets médicaux derrière un dispensaire des Toits Motu. Les militaires ont également contrôlé près de 500 véhicules au titre des infractions liées aux nuisances sonores. Des contrôles qui ont aussi été menés avec les douanes à Bora Bora, où plus de 6,4 kg de viande de tortue ont été saisis, ou à Punavia, où un individu tentait d'exporter une carapace vieille de 30 ans vers la métropole. Plusieurs épaves de navires ont aussi été contrôlées à Tahiti, de même que des navires au mouillage à Moorea, dont deux ont été verbalisés pour pollution. S'ajoutent des contrôles sur des rejets polluants d'un élevage porcin, des cyberpatrouilles contre les trafics d'espèces protégées, une opération auprès des touristes de Tetiaroa, un ramassage avec Mama Natura à Arue, bref, une opération sur tous les fronts, sur laquelle on revient avec le OCR Eric Spitz.
On ne peut pas gâcher ce territoire qui vit essentiellement du tourisme en portant atteinte à notre environnement. Il s'agit donc, via des opérations de police administrative et de police judiciaire, non plus de sensibiliser les gens au risque d'atteinte à l'environnement, mais bien de les sanctionner. Ça s'est traduit par un certain nombre de gardes à vue et de procédures judiciaires qui se prolongeront dans les prochaines semaines et que la procureure pourra vous détailler.
Et des procédures, il y en a, et pas seulement les 99 contraventions établies, la dizaine de véhicules immobilisés, les 35 000 euros d'avoirs criminels saisis, la soixantaine de délits déjà constatés, avec 66 mises en cause, dont 5 gardes à vue dans l'enquête sur la viande de tortue, car 47 nouvelles enquêtes ont été initiées et 11 autres ont été poursuivies, selon la procureure Solène Bellawar.
Cette opération aura été le point de départ d'un certain nombre d'enquêtes qui vont s'inscrire dans le temps et se poursuivre dans les mois à venir, qui vont permettre probablement de découvrir des complicités, des ramifications. Donc il faut avoir à l'esprit que le bilan qui est donné aujourd'hui, c'est une sorte de bilan provisoire, c'est un bilan immédiat, mais ces enquêtes ont vocation à être poursuivies dans le temps.
Du travail pour la justice donc, mais aussi encore pour les gendarmes, car d'après le colonel Grégoire de Maison, Place Nette n'était pas une opération isolée et les opérations de lutte contre les infractions environnementales ont vocation à durer bien au-delà des Jeux Olympiques de juillet et août prochains, ce qui n'est pas pour déplaire au pays qui a participé à l'opération via la DEPAM, la DIREN et le port autonome. La vice-présidente en charge de l'environnement, Eliane Tevahitoua, adhère parfaitement à cette logique répressive.
Il arrive un moment où les spots publicitaires, les annonces de prévention qui sont faites, ça ne suffit plus. Et donc, on est obligé d'arriver au stade d'appliquer les sanctions qui sont prévues déjà dans notre législation, mais qui n'ont jamais été mises en œuvre. Parce qu'on a toujours été un peu indulgent et on a toujours cru que peut-être les gens vont changer leur comportement, mais on se rend bien compte que ce n'est pas le cas.
Et au-delà de l'environnement, d'autres opérations anti-délinquants seront menées dans la perspective des Jeux Olympiques dans les semaines et mois à venir, et pas seulement sur l'environnement, on l'a dit.
Et lors de cette opération Place Nette, les gendarmes ont aussi saisi des fûts d'hydrocarbures à bord d'une épave.
Oui, c'est l'intervention la plus spectaculaire parmi les 89 qui ont été menées la semaine dernière par la gendarmerie. La brigade nautique et l'OCLESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, ont mené des investigations sur l'épave du Corsaire. Des investigations en profondeur, puisque le navire, ancienne navette d'Aremiti, avait coulé en octobre 2022 dans le port de Papeete, après y avoir été immobilisé pendant une quinzaine d'années. Le Corsaire est toujours posé là, à un peu plus de 30 mètres de fond, tout près du pont de Motuhuta, entouré de barrières de surface anti-pollution, puisque plusieurs fuites d'hydrocarbures avaient été constatées, notamment en mars 2023. Elles avaient ainsi motivé l'ouverture par le parquet, voilà quelques mois, d'une enquête préliminaire pour atteinte à l'environnement. Et c'est précisément dans ce cadre que sont intervenus les 5 plongeurs spécialisés dans les opérations de criminalistique en milieu subaquatique. Les détails avec le colonel Grégoire de Maison.
conduire une perquisition par 35 mètres de fond, ça demande une haute technicité à la fois en matière de plongée et de police judiciaire. Et donc c'est le croisement de ces différentes compétences qu'on a mis en œuvre pour conduire cette opération.
Une opération qui a porté ses fruits. 12 bidons de 20 litres et 6 fûts de 200 litres d'hydrocarbures ont ainsi été saisis et remontés à la surface par les gendarmes. Beaucoup d'autres sont toujours à bord. Des prélèvements qui doivent maintenant être analysés pour faire avancer l'enquête, comme nous l'explique la procureure.
C'est un développement important pour l'enquête parce qu'on découvre des hydrocarbures et des déchets au cours de la perquisition. Et là aussi, l'enquête n'est pas terminée puisqu'on va s'attacher à identifier maintenant les responsabilités.
Un travail qui pourrait être complexe vu l'historique du Corsair. Le groupe de Gage en était historiquement le propriétaire, raison pour laquelle il avait été mis en demeure par le port de retirer l'épave fin 2022. Mais la société explique avoir vendu le navire à l'entreprise Tahiti Cruise dès 2018. Une cession qui n'a pas fait l'objet de déclarations adéquates, comme l'avait rappelé le tribunal administratif en mai dernier. Et alors que le port a renoncé à mener lui-même les opérations de renflouement, la question des responsabilités financières de ces opérations est désormais dans les mains de la Cour d'appel administrative de Paris. S'ajoute donc celle de la responsabilité pénale des hydrocarbures stockés à bord.
7h06, on s'intéresse désormais à la politique puisqu'Anthony Géros était l'invité de la rédaction hier.
Oui, le président de l'Assemblée a notamment exprimé des regrets sur la manière dont a été adoptée la loi fiscale en fin d'année dernière. Il regrette aussi la manière dont a été supprimée la TVA sociale. Il répète qu'il ne l'aurait pas fait si précipitamment. Et alors que la session administrative débutera en avril et que les réformes de la PSG et de la fiscalité y sont attendues, Anthony Géros se refuse à parler des orientations qu'il aimerait voir sur ces sujets. Il préfère attendre le séminaire qui doit se tenir dans 2 semaines sur la question. Et alors que l'idée d'un remaniement ministériel fait son chemin, on se souvient que le président de l'Assemblée déplorait l'an dernier ne pas avoir été consulté sur la composition du gouvernement. Mais ce n'est pas vraiment le cas cette fois-ci non plus, dit-il, en expliquant attendre de voir venir. Quant aux rumeurs de motion de défiance, le président de l'Assemblée minimise.
Pas vraiment. C'est un sujet qui ne ressort plus dans les discussions, même en coulisses de l'Assemblée. On attend de voir venir. C'est de l'incompréhension parce qu'on peut pousser des coups de gueule, mais ce n'est pas pour autant qu'on va déposer une motion de censure. Je ne peux pas m'avancer pour la majorité, mais en tous les cas, oui, on a 38 élus et quelques petits collègues de la minorité, ça pourrait se faire, mais ce n'est absolument pas le but. Ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire, me semble-t-il, puisqu'aujourd'hui, le Tavini est revenu en force.
Mais alors, si une motion était tentée, qui mettre sur le siège du gouvernement? Parce que ce n'est pas si simple. La majorité Tavini à l'Assemblée compte 3 politiciens chevronnés contre 35 novices.
On essaie de les accompagner dans leurs interrogations. Beaucoup de questionnements aussi sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que quand on donne du pouvoir à quelqu'un, des fois, ce n'est pas qu'ils en abusent. Mais sans se rendre compte qu'à chaque fois, ne serait-ce que quand ils interviennent, ils sont borderline. Donc là, il faut leur apprendre. Et on a besoin de leur apprendre le métier, leur dire que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais faites attention quand même, il y a des limites à ne pas dépasser. D'ailleurs, ça s'est illustré dernièrement avec ce qu'on pourrait appeler peut-être des incompréhensions de langage.
Voilà Anthony Géros qui répondait aux questions de Caroline Perdri et notamment des questions concernant le changement apporté au règlement intérieur de Tarahoy ou sur des questions concernant la fameuse commission de décolonisation dont rien ne filtre. Toutes les réponses du président de l'Assemblée sont à retrouver en détail sur notre site radio1.pf tandis que l'interview est disponible en vidéo sur notre page Facebook.
On ouvre une page justice avec cette condamnation pour tentative de corruption.
6 mois ferme pour un détenu reconnu coupable d'avoir tenté de soudoyer un surveillant. Le deal était simple, en échange de cigarettes ou de gâteaux, le détenu devait garder le silence sur de supposés trafics que le surveillant aurait laissé faire à Noutania. Voyant que cela ne marchait pas, il avait envoyé des courriers aux instances judiciaires pour dénoncer ce surveillant sur la base de ce chantage. Après enquête interne, il s'est avéré que le surveillant en question n'avait rien à se reprocher et qu'il était la victime d'une cabale. Alors, malgré les nombreuses questions du juge hier, le prévenu est resté muet à la barre, n'apportant aucune preuve de ce qu'il avançait dans ses courriers. Seul « je voulais me venger » est sorti de sa bouche. Âgé d'une 30aine d'années, il n'en est pas à son coup d'essai dans ses tentatives de corruption, puisqu'il y a quelques années déjà, il avait été condamné pour avoir offert de l'argent à un gendarme qui le contrôlait alors qu'il roulait sans permis. Alors qu'il devait sortir en juillet, il va donc purger 6 mois supplémentaires.
Et puis un autre procès hier, celui d'un jeune homme violent.
À 20 ans, il a été condamné à 12 mois avec sursis pour violence conjugale sur sur sa compagne de 16 ans. Ivre, il avait été interpellé en mars 2023 après que les Mouteuil soient intervenus pour une dispute conjugale à l'issue de laquelle ils avaient retrouvé la jeune fille en pleurs et portant de nombreuses traces de coups au visage. Coupable de nombreuses crises de jalousie, le prévenu a expliqué être lui aussi régulièrement tapé par sa femme et les témoignages confirment que les deux sont comme chien et chat. Ils passent leur temps à se taper dessus, voilà ce que dit une tante. Pour le procureur, ces faits ne sont pas anodins, ce sont des violences banalisées et habituelles qui font pleinement partie de leur vie de couple, a-t-il déclaré. L'avocat de la défense a ainsi plaidé des violences réciproques, mais le jeune homme a finalement été condamné à 12 mois de prison avec sursis, donc avec interdiction de paraître au domicile de la victime. Il devrait également verser 40 000 francs au titre des dommages et intérêts.
On termine ce journal par ce compte à rebours, J-2, avant la magie au Grand Théâtre.
Oui, les stars de la magie, 7 illusionnistes, manipulateurs, comiques ou acrobates, suivant les spécialités, seront sur la scène à partir de vendredi pour 5 représentations en 2 jours qui ont su trouver leur public à Tahiti. Nicolas Del Pozzo, magicien chef d'orchestre de ce festival qui a déjà remporté du succès et des prix en métropole, promet du show bien sûr, mais pas n'importe quel show, puisque le spectacle a été travaillé spécialement pour le Fénois.
Le festival, le spectacle en soi, a été créé pour Tahiti. Il y a un tableau d'ouverture, un final. Tout ça, je l'ai imaginé pour Tahiti. Il y aura plein de petites surprises lors de ce spectacle. Je dis, pour l'instant, je garde le secret. Je suis un magicien, non, je suis fidèle à ma première leçon. C'est un magicien, on ne révèle jamais les secrets. Vous allez en prendre plein les yeux et voilà, c'est, la Polynésie est magique. Et là, on a un monde magique, des magiciens qui viennent. Enfin, là, on va faire rencontrer les deux sur un seul même show.
Et le show, il se prépare dès à présent. Les répétitions sont en cours, les réglages de son et des lumières également, mais surtout le déballage des 28 mâles arrivés lundi à Tahiti, car les magiciens ont réussi à faire venir de grandes illusions aux Fénois. On nous promet notamment des spectateurs qui s'envolent au-dessus de la scène et des assistants découpés devant le public. Des préparations méticuleuses qui ont lieu ces jours-ci. Mais le magicien Jimmy Delp l'avoue, le labeur est un peu moins difficile au soleil.
Je pense qu'on fait ce métier parce que on veut aussi voyager, découvrir des cultures, rencontrer des nouvelles nations, des nouvelles personnes. Et je pense que on a une chance incroyable d'avoir un métier qui nous permet de voyager et d'être commandé comme ça à l'autre bout du monde. C'est hyper gratifiant. Donc on est content de pouvoir répéter les pieds dans l'eau, en chemise et en short. Et je peux vous dire qu'on va répéter avec grand plaisir.
Voilà Jimmy Delp qui fait donc partie de ces stars de la magie qui seront sur la scène du